Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, comment allez-vous? Bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, la course à pied, mon lifestyle sportif. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi matin. Je suis fidèle au rendez-vous, vous voyez, allez, le mercredi matin. Désormais, c'est le jour, enfin, le mercredi, au sens large, hein, c'est le jour de publication de l'épisode. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas encore couru, hein, il est tôt, il n'est pas encore 8h. Le jour se lève à peine. Et vous savez, le mercredi, moi, j'ai entraînement en club, donc je cours le soir, hein, en pleine nuit, ouais, on est entraînement à 6h30, en pleine nuit, dans le froid, l'hiver, mais c'est tout l'intérêt aussi d'aller courir en club. J'en ai parlé, c'est pour ça aussi que j'aime aller courir en club. Aujourd'hui au programme, je voudrais vous parler de yoga et de running et puis ensuite je vous donnerai quelques news. Mais d'abord, je voulais vous parler de yoga parce que c'est une pratique que j'ai incorporée au fur et à mesure dans mon quotidien et notamment depuis cet été, depuis le mois d'août, je fais du yoga tous les jours, hein, voilà, tous les matins au moins, des fois le soir, hein, mais au moins tous les matins, j'essaye de faire une séance de yoga qui n'est pas très longue en elle-même, hein, qui fait quelques minutes. Le but du jeu, en fait, c'est qu'elle rentre dans mes rituels du matin. Et ça fait partie de mon réveil, hein, de mon réveil du matin. Pourquoi le yoga d'abord? Alors, au départ, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas fait pour faire du yoga, que j'étais trop raide. Vous savez, c'est l'image de le yoga, c'est les gens souples, etc. Et tout ça, ben, voilà, très clairement. Et donc moi je me disais, je suis trop raide pour faire du yoga. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est que le yoga permet de travailler la souplesse, car la souplesse travaille en fait. Hein, on est né souple, hein. Quand je vois ma fille, je n'ai aucun doute sur le fait. Je me rappelle d'ailleurs les premiers jours, hein, à quel point elle était d'une souplesse, on avait peur de la casser, etc. Et puis on se rend compte à quel point elle est souple. Et puis d'ailleurs elle fait des mouvements de yoga, c'est assez rigolo de la voir faire du yoga elle aussi à sa manière. Mais en fait on se raidit, et notamment le sport nous raidit, la course à pied nous aurait dit, un coach, un kiné m'avait dit aussi que, par exemple, le foot, hein, aurait dit, alors moi qui joue au foot pendant des années, plus maintenant la course, mais il y a eu le tennis, le basket, vous voyez que ce sont que des sports qui raidissent, en fait, tout simplement. Et en fait, on doit s'en méfier parce que si on ajoute ça, par exemple, alors moi, dans mon cas, il y a eu le poids, le manque d'exercice avant, la sédentarité, le fait d'être sur des chaises toute la journée, etc. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. En fait, le fait d'être raide comme ça, eh ben, nous amène de l'inconfort, hein, on sent qu'on n'est pas bien, on sent les tensions par exemple dans le cou, on sent les tensions dans le dos, le mal de dos, les raideurs, toutes ces difficultés un petit peu au quotidien qui sont pas très agréables, etc. Je pense qu'on dort mal aussi. Enfin, moi j'ai des souvenirs d'avoir mal dormi parce que je me sentais raide, un peu bloqué. Et puis, en fait, l'un des problèmes, c'est les blessures. Hein. On peut arriver sur des risques de blessures. Même j'avais vu des crampes, hein, par exemple, hein, qui peuvent venir aussi en partie de ça, ben, tout simplement parce qu'on a des tensions importantes. Moi, j'ai un souvenir aussi que ma périostite était aussi due au manque d'étirement tout simplement des muscles, hein. Il y a ma position de pied, mais il y avait aussi un manque d'étirement, c'est-à-dire que à un moment donné, ben les contractions de mon pied, du fait des mauvaises positions, amenaient les muscles à se tendre d'une certaine manière, amenaient les tendons, des tensions d'une certaine manière, et en fait ça ne se détendait pas assez ou vraiment pas vraiment quoi plutôt, et donc cette tension en fait s'attirait, c'est ce qui avait fini par provoquer les douleurs qui étaient très 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 désagréables en marchant, hein, puisque ça me lançait, je pouvais pas marcher du tout. Comment je m'y suis pris, hein, pour me lancer dans le yoga? Alors au départ j'avais commencé par faire des petites vidéos j'ai regardé sur YouTube, hein, bien sûr, où commencer d'autres, bon, bien sûr, si les applications mobiles, mais j'ai commencé sur YouTube avec Adrienne, hein, qui alors Adrienne, c'est la star mondiale du yoga sur internet, hein, 5,6 millions de followers, qui est une Texane. Et en fait, alors c'est assez facile à comprendre, hein, c'est simple et tout. Vous avez une jolie jeune femme là sur son tapis, etc., qui vous explique assez dans un anglais qui est simple à comprendre. Hein, si vous parlez pas anglais, vous inquiétez pas, vous la regardez faire. Et, elle a des petites sessions, par exemple, de 7 minutes. Alors on a plein sur yoga, je vous ai mis une session de 7 minutes. Parce que c'est ce qu'elle appelle les quickies. Et donc en 7 minutes de yoga, vous avez les positions, et notamment ce qui est intéressant dedans, c'est que ça vous donne des premières positions sur vous avez le chien tête en bas, des choses comme ça, qui sont des positions assez classiques. Mais notamment avec comment ça permet de s'étirer, hein, de travailler sur l'étirement. Cet été, après, je me suis abonné à Yogilab, hein, qui est une plateforme en ligne. Alors, si vous écoutez votre coach web, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'ai reçu Tiffen, hein, qui a lancé Yogilab, sur votre coach web pour parler de ce que c'était le yoga, etc. On a parlé. Et puis, dans votre coach web, cette semaine aussi, j'ai un autre épisode avec une autre personne qui collabore à Yogilab, notamment. On a reparlé aussi un peu du yoga, des choses comme ça. Donc, c'est Rémi. Et Rémi, j'ai dit un jour que je l'inviterai sur le podcast pour parler, mais plutôt de nutrition, voilà, parce que c'est aussi sa spécialité. Et donc, dedans, il y a des exercices, et notamment, ce que je voulais avoir, c'était un peu de méthodologie, vous voyez, et comprendre un peu mieux les choses, etc. Donc, j'ai suivi son programme, le programme de 21 jours, et puis j'ai pris ce qui m'intéressait dedans, voilà, des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Et en fait, surtout, c'est que j'en ai fait une habitude quotidienne. Je me suis vraiment concentré sur la routine et l'habitude quotidienne. Donc, tous les matins, ce que je fais, c'est que je m'installe. Donc, j'installe mon tapis. Alors, je m'apprends un tapis de yoga, etc. J'ai pris en fait un tapis d'Hécatlon, ouais, de sport classique. C'est important le tapis parce que c'est un peu rembourré et ça fait mal aux genoux sinon. Donc j'ai pris un tapis, donc tous les matins je déplie mon tapis après avoir bu mon jus de citron, et dessus je m'installe pour 5 minutes environ de méditation, je chronomètre pas, etc. Je me concentre sur ma respiration, vous voyez, respirer, c'est en fait ce moment où je dis que mon cerveau commence à me rejoindre un petit peu, hein. Je me suis levé un petit peu avant lui, et là il commence par me rejoindre. Ensuite, ben, je vais faire je vais faire des salutations au soleil, travailler sur la respiration, le souffle et l'étirement. Alors, les salutations au soleil, c'est très codifié, moi j'ai codifié mes propres mouvements, mes propres enchaînements, qui sont en fait des choses avec travailler la posture pour se tenir bien droit et puis se pencher, travailler la souplesse du dos. Alors il y a des exercices, hein, qui sont assez classiques, on peut penser au chat, vous voyez, faire le dos rond, la vache, creuser les lombaires. Il y a le chien tête en bas, il y a le dragon aussi, vous voyez, des positions comme ça, qui permettent en fait de travailler la mobilité du dos. Permettre de travailler la mobilité du dos, mais aussi, vous voyez, ensuite, il y a des choses, par exemple, pour travailler le bassin, tout ce qui est autour du bassin, etc., étirer les jambes, travailler un petit peu sur les jambes, la souplesse des jambes, etc., psoas, vous voyez, tous ces trucs-là, je sais que notamment le psoas, en course à pied, il faut s'en méfier un petit peu, hein, ça fait partie des zones, hein, qui peuvent craquer, tout simplement. Il y a aussi autour des chevilles, vous voyez, tout un tas de mouvements comme ça. J'en profite aussi, les lendemains d'entraînement pour travailler un peu plus les étirements, vous voyez, des étirements un petit peu classiques, hein, tout ce qui est fessiers, tout ce qui est cuisses, tout ce qui est aussi, bien sûr, mes mollets, tout ce qui est aussi, tout ce qui est autour du périoste, hein, tous ces éléments-là, voilà. Et puis, aussi un petit peu de travail de posture par rapport à ma syphose. Je vous rappelle que la syphose, c'est un mouvement, c'est un ostéo que j'ai eu cet été, spécialisé en sport, qui m'a dit j'étais penché vers l'avant. Je fais partie des coureurs. Les coureurs, en fait, on a souvent cet élément-là, plus les chaises. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à se tenir plus droit. Se tenir plus droit, en fait, c'est que ça... Bien sûr, c'est par rapport à la cage thoracique, par rapport au diaphragme aussi. Ça permet aussi en course à pied de prendre plus d'air, mais dans notre quotidien aussi, de mieux respirer, de prendre plus d'air. Et vous savez que l'air, c'est ce qui nous nourrit tout, hein, ça nourrit nos muscles, notre cerveau, ça nourrit tout. Donc c'est important. Et donc vraiment, je travaille là-dessus, sur la respiration, sur la posture, arriver par exemple à écarter les épaules, à arriver à les amener le plus vers l'arrière, etc., pour redonner de l'amplitude à la cage thoracique, qui était un petit peu serrée. Et puis si vous regardez votre position sur une chaise, vous avez une position qui est souvent un petit peu vers l'avant, un petit peu serré. Si vous prenez le train aussi, il y a des choses comme ça, vous voyez, des positions qui sont un petit peu de ce type là les cyclistes aussi, hein, dans tous les sports comme ça, on a un petit peu une tendance à être penché, et donc on a une tendance aussi à se recroqueviller, à être un petit peu tendu, un petit peu serré, etc. Et donc je travaille tous ces éléments là vous voyez, avec des trucs qui sont relativement simples. Alors après, il y a des trucs que vous connaissez, hein, la position du guerrier, des choses comme ça, mais vraiment qui sont pas compliquées. Je veux dire, c'est pas des positions compliquées, c'est pas des équilibres, c'est pas des handstands, vous voyez, des équipes sur les mains, sur la tête, des choses comme ça. Donc c'est des positions qui sont beaucoup beaucoup plus simples, mais qui sont en fait, qui me font du bien et qui permettent en fait de commencer à m'échauffer. Tiffen disait qu'en fait ça ressemble à certains mouvements de fitness qui sont plus rapides, vous voyez, vous avez les mêmes mouvements, c'est-à-dire qu'il y a des inversions, le fait de mettre la tête plus bas que le cœur, etc., vous voyez, il y a tout un tas d'esprits comme ça qui font qu'en fait ça réveille vraiment 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 le corps. Alors les premiers constats en fait dans tout ça, c'est que j'ai d'abord gagné en souplesse générale, j'ai envie de dire. Au début, je disais, j'étais raide, et j'étais raide, hein, vraiment, et encore, ça, je l'avais travaillé, parce que quand je faisais du fitboxing, il fallait lever les pieds. Je me suis rendu compte que petit à petit, le coach l'avait dit, il a dit, on travaille la souplesse, etc., sur des étirements, pour arriver, vous voyez, à devenir plus souple. Mais là, vraiment, j'ai gagné vraiment en souplesse. Alors, souplesse au niveau, notamment, du dos, du cou, du haut du corps, etc., du bassin. Il y a des rotations que je n'arrivais pas à faire vraiment, j'étais pas vraiment allé sur mes rotations, j'arrive mieux à les faire. Donc, j'ai plus de rotations, je suis plus à l'aise, vous voyez, je me sens mieux là-dedans. Et, je sais aussi que dans notre foulée, Dans la course, en fait, on a besoin de souplesse au niveau du bassin, on a besoin de tout un tas de choses. La souplesse aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir plus d'équilibre, hein, tout simplement. Mais c'est aussi ce qui permet de mobiliser mieux les muscles et de mieux travailler. Donc, je me sens plus souple, mais me sens aussi plus mobile, vous voyez, hein, donc par rapport à la foulée, par rapport à la course, etc. Je me sens mieux, hein, tout simplement. C'est vrai que ça m'apporte un léger mieux, vous voyez, hein, enfin, petit à petit, qui progresse, etc. C'est difficile, hein, de mesurer vraiment le progrès, mais c'est vrai que je me sens mieux, vraiment sur ce plan de la mobilité et de la souplesse. Le yoga est aussi une forme de stretching. En fait, le stretching vient de beaucoup du yoga, donc il travaille beaucoup sur le souffle, l'étirement, etc. Et bon, j'ai parlé de la souplesse, vous voyez pourquoi j'ai dit souffle et souple. C'est un petit peu un mélange des deux, mais en fait, le stretching, hein, étirer les muscles par rapport au souffle, hein, travailler là-dessus, c'est assez important. Et beaucoup de techniques de stretching, finalement, ont pris dans le yoga des premières choses, et puis en fait, on l'a adapté sur des techniques plus fitness. Et puis après, la médecine, etc., s'en est mêlée, pour arriver à apporter une pratique qui est plus codifiée. Donc vraiment, sur cet aspect-là, je sais, ça me fait du bien, hein, je le vois, hein, vraiment, ça me fait du bien. Notamment, par exemple, les séances du soir après le running, ça m'aide aussi, notamment, par exemple, à m'endormir un peu plus facilement le soir. Parce qu'après une séance d'entraînement, on a couru pendant 1h30, etc., les niveaux d'endorphines sont à fond, etc., et autres. Certes, il y a la fatigue physique, hein, qui pourrait nous dire, ça va nous tomber, mais il y a aussi un peu l'excitation, etc. Et là, ça aide, vous voyez, à souffler, à reprendre un petit peu le contrôle de tout ça, de petit à petit arriver à s'endormir, à se mettre dans une position de sommeil qui est plus simple. Par exemple, le soir, en fait, je fais mes séances dans le lit, hein, tout simplement. Alors, j'étire principalement le bas du corps, j'étire aussi le haut du corps, je fais mes postures, je débloque un petit peu le dos, je déverrouille le dos, les épaules, le cou, vous voyez, tout un tas de mouvements autour de ça. Tout ce qui était tendu par la course, vous savez, hein, toutes ces tensions qu'on a dans la course à pied et dans le sport en général, et ça apporte du relâchement. Et ça, vraiment, je l'apprécie. C'est des mouvements qui sont pas très compliqués. Vraiment, hein, je vous mettrai quelques liens. C'est vraiment pas compliqué. Si ça vous intéresse pour aller plus loin, j'ai un livre à la maison qui s'appelle Yoga pour Runner, mais en fait que je feuillette de temps en temps, et je prends quelques éléments. Dedans, il y a des positions, mais vous voyez, tout bêtement, par exemple, c'est de vous allonger, de vous étirer en étant vraiment vous allonger le plus possible, étirer le plus les bras, etc. Et puis il y a des positions de respiration. Et donc le livre Yoga pour Runner, par exemple, il montre assez bien ces éléments-là. C'est un livre qui est assez gros, hein, qui montre bien la complémentarité du yoga et du running, hein. C'est fait par des profs de yoga, un prof de course à pied. Et en fait, il s'appuie sur les grands piliers du yoga pour aider les coureurs à améliorer la performance. C'est lié notamment sur, par exemple, mieux courir le trail, mieux courir en général, mieux travailler sa foulée, mieux travailler sa respiration. Et puis aussi, un aspect qui arrive sur le mental. Et moi, c'est un aspect qui m'intéresse parce que je sais qu'au bout d'un moment, c'est dans la tête, hein, que ça lâche, ces histoires-là. Dans le livre, il propose beaucoup de théories, hein, il y a notamment les muscles, etc., le fonctionnement du corps, mais aussi beaucoup de pratiques, avec beaucoup de photos, beaucoup d'exercices à faire, etc. Et c'est vraiment, vraiment un livre qui est assez intéressant. Alors le lire de A à Z, je sais pas, moi j'ai pas réussi. Ce que je fais, c'est que je picore des séances dedans, je picore des éléments que j'incorpore petit à petit à ce que je fais, à mes séances. Et vous voyez, ça s'ajoute, hein, par exemple, à ce que je faisais sur le protocole de Stanlish, vous savez, sur l'étirement des tendons. Dans le yoga, on retrouve ça, par exemple, hein, y a des mouvements de yoga où on retrouve cette extension des tendons. Et on sait, par exemple, quand on a mal au tout ce qui est tendineux, etc., ça vient aussi du manque de souplesse. Donc je pense vraiment, hein, si ça vaut le coup, hein, d'essayer. Si vous avez jamais, si vous pensez être trop raide, éliminez cette idée-là. Allez voir, par exemple, je vous mets le lien vers la vidéo d'Adrienne, hein, vous verrez ça. Allez faire un tour sur YogiLab. Hein, alors, il y a beaucoup de choses qui sont sur abonnement, mais regardez un petit peu comment ça fonctionne, etc. Moi, j'essaierai de vous mettre aussi sur Instagram quelques éléments dessus, parce que je pense que ça peut être intéressant. Je pense que je vais en parler de plus en plus avec quelques postures, des choses comme ça, ou une petite vidéo dont je vous en reparlerai très prochainement là-dessus. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à tester ça. La deuxième, maintenant, je voudrais finir après cet épisode sur quelques news, hein, voilà, quelques nouvelles. Je vous avais dit la semaine dernière que je suis dans la saison des crosses, hein, je vous ai expliqué pourquoi je faisais des crosses, etc. Et dimanche, c'était mon deuxième cross de la saison, c'était le cross de Pérignat, alors que pour moi, c'est pas très loin, hein. Si vous connaissez Clermont, c'est Pérignat et Sarliève, c'est pas très loin, c'est la sortie de Clermont. Si vous connaissez pas, dites-vous que c'est, pour moi, c'est approche, c'est à 10 minutes de la maison à peine, hein. Et encore, je dis à 10 minutes de la maison, un jour j'étais allé en courant, vous voyez, j'ai mis 25 minutes à peu près, hein, à peine, donc en voiture, en 5-10 minutes, on y est. Alors c'est un cross, hein, 6 km, il était annoncé entre 6 km 5 et 6 km 7, et finalement il s'avérait que au final les boucles se faisaient 6 km 2 au total, hein, en courant là-dessus, ce qui a faussé toutes les moyennes. Bon, les vainqueurs, il n'y a aucune surprise, hein, dans les vainqueurs. Moi je me suis fait prendre un tour, au troisième tour déjà, j'avais 5 tours à faire, et au troisième tour le premier m'a doublé comme un avion, mais il m'avait doublé déjà à Beaumont, il s'appelle Fabien Chartoir, c'est un coureur de très 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 haut niveau. Voilà, on est sur des coureurs, hein, qui sont niveau équipe de France, puisque le troisième, Patrick Bringer, a été lui aussi champion du monde en trail par équipe. Donc là vraiment ça tape vraiment fort. Et vraiment, vous voyez, ils sont dans leur préparation hivernale, etc. Bah, le Chartoir, je pense qu'il doit faire toute sa saison de cross, hein, classiquement. Et là vraiment, lui m'a doublé, mais avec une. Vous savez, vraiment une légèreté, un truc assez incroyable. C'est à Beaumont, je l'avais pas entendu arriver, là je l'ai vu arriver, et puis j'ai dit voilà, ouais, là, là. Et puis moi dans ma tête, et c'est là où c'était assez intéressant, c'est que dans ma tête à ce moment-là j'étais un peu perdu. Pourquoi? Parce que je suis parti vite, vite, mais vite comme un avion. Je me suis enflammé. En fait, dans notre course, il nous a mis avec les juniors. Il mélange les catégories, il nous a mis avec les juniors. Et les juniors sont partis comme des balles. Les bons sont partis comme des balles. Et moi. À Beaumont, j'avais eu le sentiment dans le cross précédent, en fait, j'y avais un moment, on était tassé dans le peloton. Et je m'étais rendu compte que d'être tassé dans le peloton m'avait mis loin de certaines personnes qui couraient à peu près à la même vitesse que moi, mais que je voyais toujours devant moi, mais voyais sans pouvoir rattraper. Et je m'étais dit, ça aurait été bien de courir avec eux. Donc là, je me suis dit, je vais courir avec des personnes qui ont à peu près ma même vitesse, mais qui vont partir vite. Et donc, je me suis dit, je vais partir vite. Et c'est parti comme une balle dans les premières centaines de mètres. Et au bout d'un moment, je me dis, voilà, mais je suis parti vraiment vite. Et puis, je suis regardé à côté de moi, j'avais quelqu'un du club qui normalement court beaucoup plus vite que moi quand même. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et je regarde ma montre. Et à ce moment-là, ma montre, elle affichait 3,08 d'allure au kilomètre. 3,08, c'est beaucoup, beaucoup trop rapide, hein. Quand un coureur comme moi, j'ai une VMA autour de 16, donc normalement j'aurais dû courir, je devrais être au moins une minute plus lent que ça au kilomètre, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc là, 3,08, ça faisait beaucoup trop. Et en fait, Strava me remonte même une moyenne sur les premières centaines de mètres à 2,50. Et 2,50, c'est l'allure de Kipchoge quand il fait le marathon en 2 heures. Voilà, donc pour vous donner l'ordre d'idée, hein, c'est vraiment, vraiment là, il y a un truc qui clochait, j'étais vraiment pas dans mon allure. Je l'ai payé rapidement, hein, parce qu'après, donc au départ, ça partait plat, une petite descente, une montée, puis ensuite, un grand faux plat avec des virages en épingle à cheveux, c'est le charme du cross, etc. Un grand faux plat, une descente qui glissait, enfin voilà, et puis on fait ça 5 fois. Donc il y a au bout d'un moment je me suis calmé, j'ai géré ça, et bien sûr le problème, hein, c'est que dans ce cas-là, ben, on se fait doubler. Je me suis accroché à certains, vous voyez, il y en a certains, je me suis dit toi tu me doubleras pas, je me suis accroché à des petits groupes, etc. Et puis je me suis fait prendre un tour par les premiers. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé tout un peu seul, vous voyez, dans ma course, dans le dernier tour. J'avais plus grand monde devant moi, et l'autre derrière moi, le suivant, en fait, le suivant, au début il me paraissait prêt, puis je me suis rendu compte à l'arrivée, il était à 30 secondes. Donc vous voyez, j'avais un espèce d'écart. Ce que j'avais voulu éviter, hein, de l'avoir vécu à Beaumont, et finalement je l'ai revécu là, tout simplement parce que c'est une question de vitesse. Alors je termine 89e de la course, hein, sur le scratch, il y a les juniors et puis les bons devant moi, hein, on était en vétéran, vous voyez, master, mais pas les M0, les à partir des M1, c'est-à-dire que les moins de 40 ans, finalement, étaient basculés dans les courses des seniors. Nous, on était avec des juniors, hein, ouais, ce qui est bizarre, plus après, donc ça allait à très vieux, entre 40 et bien plus vieux que ça. Et donc, je finis 24e de ma catégorie, ce qui est, moi, vous voyez, ça me va bien, hein, parce que le but du jeu, c'est que, j'ai dit, je ferai pas de podium ni rien, mais le but du jeu pour moi, c'est vraiment de travailler les appuis, et là c'était très gras, beaucoup d'épingles à cheveux, des dévers, etc. Sur un des premiers virages, il y avait un grand dévers et un virage en épingles à cheveux. Je me suis retrouvé même à aller presque trop bas, vous voyez, à aller glisser jusque dans la rue balise, hein, qui marquait le parcours. Donc après, je me suis mieux contrôlé là-dessus. Et puis, bien sûr, travailler le mental. Et c'est là où je vois, moi, j'ai les progrès à faire sur la partie mentale, puisque au bout d'un moment, je me dis, voilà, ouais, qu'est-ce que tu fous là et tout. Et donc, faut que je m'accroche. Donc, je me suis vraiment travaillé pour m'accrocher, et c'est là aussi où tout ce qui est travail de méditation et de yoga, etc., je pense que ça peut m'aider. Et puis bien sûr mon endurance, parce que le fait de partir vite, bon, bien sûr c'est un problème pour ensuite je me grille, mais par rapport à ma vitesse, je sais que j'ai une vitesse qui serait potentiellement plus intéressante que celle à laquelle je cours sur cette course là, mais c'est juste que j'ai pas la capacité en endurance, et là c'est là où les sorties longues me manquent, c'est là où le travail d'endurance fondamentale me manque, c'est ce qui va revenir aussi quand je vais attaquer la préparation marathon. C'est-à-dire que je vais beaucoup, je pense que en fait ma préparation marathon, je vais vraiment axer mes 80% de ma préparation sur cette partie-là, sur vraiment l'endurance fondamentale. Et je vais en fait faire une préparation marathon, je pense, mais ce jour je vous en parlerai, qui sera probablement plus courte, hein, plutôt 8 semaines que 12. Mais avec beaucoup d'endurance mentale avant, pour vraiment travailler cet aspect-là. Parce que je pense vraiment, hein, c'est ce qui me manque, mais ça vient aussi de mon passé à moi. Hein. Il y a quelques années, je courais, enfin il y a 3 ans ou 4 ans, je courais pas du tout. Et donc à un moment donné, il faut que j'arrive à devenir beaucoup plus endurant, ouais, sur cet aspect-là. Donc là, les crosses pour moi, je pense que c'est terminé pour cette année, parce que le prochain cross, c'est un challenge, hein, donc il y a plusieurs crosses. Le prochain cross, je ne peux pas le faire. Et ensuite, on va basculer sur 2020. Donc en 2020, ça va attaquer début janvier. J'ai regardé un petit peu le programme, etc. Je crois que c'est 5 janvier quand même, le premier, vous voyez, juste après le réveillon, etc. Je sais pas si j'irai. Après, il y en a qui sont un peu plus loin par rapport au planning, etc. de la famille. On verra comment ça se passe. En tout cas, je suis content d'en avoir déjà fait 2. J'espère en faire un 3e, voire un 4e, mais ça sera plutôt sur 2020. Là, je vais finir l'année avec une course, je pense. Je vais essayer de faire la corrida de Saint-Sylvestre. Ça se court le 30 décembre dans les rues Clermont. Les gens sont déguisés. Cette année, j'ai regardé, elle fait 11 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas sur un petit parcours. On est sur 2 boucles. Il change, hein, une année c'était 7, une année 10, etc. Là on est sur 11 avec 2 boucles. Là aussi je pense que ça va être un chouette moment. Ça se court dans les nuits, la nuit, autour, on part à 20h, etc. Vous voyez, c'est une course qui est sympa, les gens sont déguisés. Il y a même une année où il y a des gens qui portaient une carrosserie de 2 chevaux avec des gens dedans, etc. On croise toujours des Mario Bros, plein de gens comme ça. Donc je pense que ce sera ma prochaine course et la dernière course de l'année. Ce sera celle-ci, ce sera la course de la Saint-Sylvestre le 30 décembre, mais ça j'ai le temps de vous en reparler. Et puis, en autre news, je me suis inscrit dans un MOOC qui s'appelle Entraînement sportif en trail et Ultra Trail 2. 0.0, ils ont appelé, je sais pas pourquoi ils ont mis 2.0, qui est proposé par l'université de Toulouse avec des profs, des médecins, des sportifs de haut niveau. C'est gratuit, je vous mets le lien, c'est sur la plateforme MOOC, hein, pour si vous connaissez pas, la plateforme qui est funmook.fr, qui est la plateforme en fait de l'éducation nationale, plein de gens comme ça, il y a plein d'universités qui mettent leurs cours, etc. Et dedans en fait, vous avez plein de choses sur la progression en course à pied, c'est la deuxième année qu'ils le font, c'est pour ça qu'ils ont mis le 2.0, en fait, c'est pas le même cours que l'an dernier, si vous l'aviez suivi au cas où, s'il l'avait vu, ils se disent qu'en fait, c'est la deuxième version, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cours de l'an dernier, comme moi, j'ai pas suivi, il y a en accès, donc ils ont mis ce qu'il y a de l'an dernier, et viennent de mettre, petit à petit, ce qu'il y a de cette année. Ça a commencé le 1er décembre, c'est jusqu'à janvier, vous voyez, ça va s'étaler comme ça. Il y a à la fin, il y a des petits quiz pour vérifier que vous avez tout écouté, tout suivi, tout compris. Ça a l'air assez intéressant parce que les gens sont pointus, il y a des profs de sport, il y a même une gynécologue, je crois, etc., une sage-femme par rapport aux femmes, vous voyez, sur les conséquences de l'accouchement. Il y a des choses sur le mental, il y a des choses sur les blessures, sur la fatigue physique, sur la fatigue psychologique, etc., sur comment on dose son entraînement. Ça a l'air vraiment intéressant. Ils disent que ça prend 1-2 heures ou 3 heures par semaine. Donc voilà, au lieu d'écouter certains vidéos qui sont pas très intéressantes parfois, eh ben je remplacerai ça par des petites séances. Vous voyez, peut-être un soir, je ferai une vidéo comme ça. Donc vraiment, là aussi, je vous mets les liens. Hein, c'est vraiment dans l'histoire, moi, de progresser, de mieux comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis, je vous en redirai petit à petit, quel est mon bilan là-dessus. Voilà, donc vous avez un petit peu le panorama. Hein, voici pourquoi, comment je fais mon yoga. Mes petites news entre la course et puis ce MOOC, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas, si vous avez des liens complémentaires, si vous avez suivi ça, si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question. Et puis je vous remercie aussi pour ceux qui mettent des commentaires, des petites notes sur iTunes. Si vous n'êtes pas trop familier avec les podcasts, vous le savez, sur iTunes, c'est ce qui nous aide à faire connaître le podcast, à le développer, à le montrer à ce qu'il soit plus visible et à agrandir la famille autour du podcast. Donc, merci à vous pour vos petits commentaires, vos petits messages, vos petits encouragements et vos petites notes. Et moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs !